say, take me home. I said, no, Perignon. You said, no, no, no. I said, no, 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 no. No, 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 no.
Bonjour à tous et bienvenue à Second Life 97.9. Donc nous sommes le lundi 23 février et donc le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est sur la discrimination, voire les discriminations. Donc nous animons Flavie et moi aujourd'hui. Flavie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors moi je vais vous parler de pourquoi on discrimine. Alors déjà, il faut savoir que la discrimination est en général causée par le manque d'ouverture d'esprit des personnes, les préjugés, les fausses croyances qu'on peut avoir dues à notre éducation. Ce qui est inconnu fait peur à beaucoup de monde. Cela provoque chez certaines personnes une attitude de rejet, d'exclusion, voire de violence. C'est comme un instinct de protection, attaqué en premier par peur d'être attaqué tout simplement. Il y a aussi une autre explication qui peut se trouver dans la difficulté que l'on peut avoir à s'adapter, à faire des efforts, à renoncer à ses petites habitudes. En effet, une personne différente peut impliquer d'adapter l'environnement, de faire des concessions, de modifier ses habitudes, et bien souvent les gens aiment leur petit confort. Il est parfois plus facile d'ignorer la différence que de l'intégrer. Voilà pourquoi la discrimination existe. Alors, Morgane va nous parler de la discrimination de l'handicap. Et elle a interviewé Romain.
Oui, donc on sait tous que la discrimination sur l'handicap existe pour beaucoup de choses, sur le travail, sur la vie quotidienne, les tâches, tout est dur. Et donc Romain va nous parler de cela, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça, bonjour.
Bonjour à toi Romain. Donc tu as 23 ans.
Oui, c'est ça.
Donc tu travailles au service civique à la radio avec nous.
Oui, c'est ça, je suis en service civique à Fréquencier pour faire une émission sur le handicap.
Et la première question que je me demandais, c'est quoi pour toi la discrimination aujourd'hui, actuellement, en ville ou même au quotidien ?
La discrimination en tant que personne handicapée, ça peut être par exemple, c'est pas tellement une discrimination en soi, mais c'est plus le fait, par exemple, les problèmes d'accessibilité qui dans certains coins, recoins, par exemple, moi j'habite au Mans, et dans certains recoins de la ville du Mans, eh bien il y a des endroits, même si beaucoup d'efforts ont été faits quand même par la municipalité pour nous apporter le tram ou alors un service de porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite, il reste quand même des endroits un peu inaccessibles pour les personnes en fauteuil roulant, des endroits dans lesquels il y a des marches et donc c'est quasiment parfois difficilement possible d'y accéder.
Oui, du coup, c'est plus compliqué pour les plaisirs du quotidien, pour certains,
d'y accéder. Oui, voilà. Puis des fois, c'est vrai que pour certaines situations du quotidien, par exemple, moi, je pense, je prends l'exemple, là, pour venir ici à la radio, au début, ça a été assez compliqué pour trouver un transport, parce qu'en fait, il existe une société qui transporte les personnes à mobilité réduite, Mobilitis, qui est le service du Conseil Général, mais le problème, c'est qu'en fait, ils acceptent de faire ce type de transport, mais seulement pour emmener les personnes faire des loisirs. Et en gros, pas pour les emmener régulièrement à un lieu de travail. Alors du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage pour nous, quoi.
C'est ce que je vois. D'ailleurs, c'est ce que nous causions il n'y a pas très longtemps. Toi, tu travaillais où avant ?
Moi, j'ai fait une scolarité, ce qu'on appelle en milieu ordinaire, c'est-à-dire avec des jeunes collégiens ou lycéens qui sont valides. Et donc, j'ai été accompagné par ce qu'on appelle une auxiliaire de vie scolaire, qui est en fait une personne qui nous aide dans les tâches liées à la scolarité, par exemple à prendre des notes en cours, parce que parfois, ça peut être compliqué de suivre et de taper à l'ordinateur en même temps, ou alors c'est pour des tâches parfois nous aider à aller aux toilettes ou autre, etc.
C'est pas quelque chose d'évident.
Ouais.
Et donc, Tu as travaillé aussi à Cartable FM?
Oui, j'ai fait un peu de bénévolat à Cartable FM, la radio du collège Berthelot au Mans. Alors, je me rappelle, j'ai un souvenir en tête. On avait fait il y a très longtemps de ça une émission avec des autres personnes handicapées qui venaient d'un institut spécialisé, et on avait fait une émission. On avait fait ça pendant au moins, je crois, une année scolaire, et c'est vrai que c'était assez enrichissant. On parlait, alors, pas forcément de handicap, on parlait des sujets divers comme le cinéma, nos activités de loisirs aussi. On en faisait la promotion sur l'antenne, et c'était sympathique comme moment. Ça permettait de se retrouver et justement d'avoir droit à la parole comme les autres citoyens, en fait.
Ce qui paraît évident d'ailleurs. Et tu m'avais dit que tu avais eu un BTS sanitaire et social.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un BTS qui est pas spécifiquement connu. Ça s'appelle SP3S, Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social. Donc, c'est un diplôme, en fait, qui se prépare en 2 années, comme tous les BTS. Ça forme essentiellement pour travailler dans les différentes administrations, aussi bien les collectivités territoriales que les organismes de protection sociale, comme la caisse d'allocation familiale, la CPAM ou autre. Et c'est vrai que bon, moi, à l'issue de ce BTS que j'ai eu l'année dernière, Je pensais que ça allait être assez facile pour trouver un travail en milieu ordinaire. Enfin, cela dit, j'avais eu des échos de camarades qui ont d'autres types de BTS et qui ont eu aussi du mal à trouver alors qu'ils sont diplômés.
Et pourquoi ils ont du mal à trouver, selon toi?
Moi, après, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est essentiellement par peur que les employeurs sont un peu frileux, parce que j'ai déjà vu ça sur des forums sur internet, ils ont tendance à se dire, oui, mais la personne handicapée, comment elle va être intégrée, comment elle va être perçue, comment elle va être intégrée avec les autres collègues, comment ça va se passer, quel type d'adaptation ça va faire, et qui dit faire des adaptations de poste, même s'il y a des structures comme la GFIP, etc., qui sont là pour ça, ça coûte de l'argent à la société, et ça peut lui causer des tracas aussi. Puis ils ont peur aussi, je pense, également par rapport à l'absentéisme, le fait qu'on soit assez souvent absent au travail.
Puis aussi, c'est ce que tu m'avais dit, les gens n'osent pas trop te parler.
Oui, notamment. Alors ça c'est dans des cas, un peu particuliers, dans lequel on est souvent accompagné d'une personne, d'une auxiliaire de vie ou autre. Et c'est vrai que, alors je pense qu'ils le font pas exprès du tout. C'est pour ça que je prends pas ça du tout mal. Ça me surprend juste, et ça surprend aussi mon entourage. Ils font pas ça de façon mal intentionnée, mais c'est plus de se dire, ils ont peut-être peur, je sais pas, de blesser, de mal s'y prendre pour communiquer avec une personne comme ça. Et puis peut-être que si le fait d'être accompagné, peut-être que ça nous infantilise pas, mais c'est vrai que peut-être que des fois ça nous rend moins adultes.
Disons que t'es plus dépendant de ton auxiliaire, tu es moins dépendant de toi-même. Et...
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous les autres, de ce que vit Romain?
Ça rejoint ce que j'ai dit, c'est souvent la peur de l'inconnu, c'est pas méchant, je pense, envers toi ou les gens handicapés. C'est, je pense, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu, de la différence.
Oui, je pense que t'as tout à fait raison, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu. Pourtant, on peut quand même dire que les mentalités ont évolué. Oui. Par rapport à ça quand même. Moi j'ai des exemples en tête là de personnes qui sont plus âgées que moi, qui à l'époque n'avaient même pas accès à une scolarité en milieu ordinaire, de par des problèmes tout simplement de manque d'auxiliaires de vie scolaire qui était, alors à l'époque c'était un peu les débuts, ces personnes auxiliaires de vie scolaire qui étaient recrutées par l'éducation nationale, et on le sait, des fois l'éducation nationale, ils sont parfois peut-être en manque de moyens financiers, parce que bon, comme on est dans comme on traverse une situation de crise, bon bah c'est vrai qu'à l'époque c'était pas encore très développé, les systèmes d'auxiliaires de vie scolaire. C'était souvent pour ces personnes auxiliaires de vie scolaire. Alors c'était, elle disait que c'était une expérience très enrichissante. Et puis, mais bon, c'était souvent des contrats pour elles très précaires, et donc. Et donc des fois ces personnes étaient confrontées au problème en fait du manque de moyens, et donc du coup ces personnes-là, et moi j'en connais certaines, parce que je suis suivi par un service d'aide à domicile, et j'en connais certaines qui s'expriment tout à fait bien et qui malheureusement n'ont pas accès au monde du travail dans le milieu ordinaire. Alors ça les empêche pas de vivre comme tout le monde, c'est-à-dire que elles arrivent à s'engager, on va dire, en tant que citoyen, en faisant du bénévolat, en adhérant à des associations comme l'association des Paralysés de France, qui est une association sur le Mans qui nous propose des activités, etc. Donc c'est vrai que malgré ce petit bémol là, faut pas voir toujours les choses en noir, et bon, il y a quand même des progrès de fait, ça faut quand même le souligner, je pense.
Ça c'est vrai. Donc merci Romain pour nous avoir fait partager ton quotidien et tout ce que vivent peut-être les autres handicapés comme toi. C'est franchement super gentil d'être venu pour nous.
De rien.
Nous allons continuer avec Étienne qui va nous parler du racisme.
Oui, dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de discrimination raciale. Par exemple, l'apartheid. Donc ce mot veut dire séparation ou mise à l'écart. C'est un régime politique mis en place dans les années 1981 jusqu'à 1994 en Afrique du Sud. Cette politique touche les personnes de couleur. De nombreuses lois ont été mises en place afin de les séparer des blancs. Certains métiers leur sont refusés, ou ils n'ont pas le droit d'aller dans les mêmes lieux. Ils ont des toilettes séparées, des bus séparés. Enfin, tout ce genre de choses. Et donc, l'une des figures emblématiques qui a mené l'apartheid à la fin, c'est forcément Nelson Mandela, donc qui a, pour avoir défendu ses valeurs et ses croyances, il a été enfermé 24 années à Robben Island, donc en prison. Et donc, il met fin à l'apartheid en 1994, quand il devient président de l'Afrique du Sud.
Donc maintenant, Valentin va nous parler de l'homophobie.
Eh bien oui, l'homophobie, c'est un rejet de la différence au même titre que la xénophobie, le racisme ou le sexisme. Là, en l'occurrence, l'homophobie, donc, c'est le fait de rejeter les personnes qui aiment les personnes de même sexe. Il faut savoir qu'en 2013, il y a eu plus de 3500 récits qui ont été signalés, donc incluant des injures, des menaces ou même des agressions, soit une explosion de 78% en un an. Les agressions ont augmenté de 54%, donc ce qui est quand même énorme, je trouve, en attaquant en général les hommes. C'est à cause de ces agressions que, en général, certains jeunes n'osent pas en parler avec leurs proches et se referment sur eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des associations qui ont été mises en place. Donc il y a SOS Homophobie, donc c'est une association nationale de lutte contre l'homophobie. Donc il y a des sites internet, donc comme ici, donc www.soshomophobie.org. Il y a aussi Le Refuge, qui c'est une association qui se trouve dans les grandes villes, donc comme Paris, Lyon, Lille, Montpellier, Toulouse ou bien d'autres. Et par chez nous, il y a des associations comme Homogène au Mans, donc qui se trouve à 26 avenue de Gaulle, donc au Mans. Et on peut les contacter au 09 51 44 66 00. Pour y ajouter mon point de vue personnel, donc pour ma part, je refuse que les homosexuels soient mal vus. Ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de remède, entre guillemets, à cela. La communauté gay, lesbienne, bisexuelle et trans, donc on appelle aussi LGBT, ne demande qu'à avoir une vie épanouie, normale, comme chacun d'entre nous. On ne peut pas s'opposer au bonheur de quelqu'un, et je pense que c'est pas acceptable d'interdire quelqu'un d'aimer, tout simplement.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, ça paraît logique d'aimer quelqu'un maintenant, que ce soit une personne du même sexe ou même autre chose. C'est une personne, enfin, je sais pas, même on a dit transsexuel, voilà, c'est, on peut aimer
chacun ses trucs.
Voilà.
On va dire que maintenant c'est quelque chose de mieux vu qu'avant. Oui. Avant les gens se cachaient et c'était mal vu des autres personnes, que maintenant c'est beaucoup plus libéral, les gens voient ça d'une autre façon. Et puis de toute façon maintenant ils se sont obligés d'accepter quoi qu'il arrive, puisque la France est devenue un pays donc universel, surtout notamment par la loi du mariage de deux personnes du même sexe.
Je voudrais juste poser une question. Ici même au lycée, est-ce que vous pensez qu'il y a plutôt un climat de tolérance ou est-ce qu'il y a plutôt un climat encore où ça pose problème?
De tolérance.
Plutôt tolérant. D'accord.
Dans l'ensemble, oui, je pense. Hein.
Bah, surtout au niveau lycée, peut-être que les collégiens, ils ont plus d'a priori. Plus de préjugés,
sont
mais
plus fermés peut-être.
Enfin, maintenant, après, ceux qui vont grandir collège, lycée, à notre échelle, comment dire, l'accepteront de plus en plus, puisque finalement après ça fera partie du monde. Donc il y aura de moins en moins d'a priori au fil des années.
Alors nous allons continuer avec la discrimination au travail avec Camille.
Donc la discrimination à l'embauche est une discrimination évoquée lorsque des chercheurs d'emploi sont traités de manière différenciée sur une base de critères sélectifs comme la couleur de peau, le sexe, l'âge, le nom de famille ou l'adresse. Donc en cas de discrimination, un salarié peut faire appel aux délégués du personnel, aux organisations syndicales, à l'inspecteur du travail ou bien aux associations de lutte contre les discriminations pour se défendre. Contre les discriminations, il y a de nombreux recours possibles, comme le recours pénal, qui est un dépôt de plainte auprès du procureur de la République, d'un commissariat, du gendarmerie. Il y a également un recours civique qui annule la mesure discriminante et répare le préjudice subi. Les employés discriminants peuvent être sanctionnés de plusieurs façons, comme la sanction disciplinaire, la sanction civile ou la sanction pénale. Les personnes discriminées ont l'opportunité d'être défendues par la CFDT, qui est une conférence interprofessionnelle de syndicats français de salariés.
Merci bien.
Oui, et maintenant, nous allons passer à discrimination vestimentaire avec Adrien.
Alors, oui, je vais parler d'une autre discrimination différente, mais qui est plus présente dans les écoles. Alors, souvent, les enfants qui n'ont pas de vêtements de marque ou qui plaisent pas aux autres, et ben, ils sont victimes de discrimination. Ils peuvent être rejetés, exclus ou insultés. Donc ils se retrouvent seuls. Et pour éviter cette discrimination dans différentes écoles, ou comme en Angleterre par exemple, et ben dans les écoles c'est des uniformes qui sont mis en place, comme ça évite toutes sortes de discrimination ou de rejet.
D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que ici au lycée il y a beaucoup de discrimination vestimentaire ou on est assez tolérant?
Non, on est tolérant, je pense.
Ouais, je pense aussi, mais.
Dans l'ensemble, on est plus ou moins tolérant.
Après, on ne sait pas les pensées de chacun, mais bon, je pense que ça va. Oui, voilà.
Alors moi, j'ai juste une question. Donc justement, on entend de plus en plus parler. Je crois que c'est le cas en Angleterre, le port de l'uniforme. Aujourd'hui, ça revient de plus en plus dans les débats, notamment le port de la blouse au primaire et donc le port de l'uniforme ensuite collège, lycée et autres. Êtes-vous pour ou contre?
Bah, c'est vrai qu'en plus ça s'est fait, je crois, par le passé. Il y a une certaine époque où dans certains types d'établissements, les jeunes étaient qu'en uniforme. Mais c'est vrai que comme ça, au moins, il y a pas de souci par rapport à la discrimination vestimentaire. Et puis c'est vrai que je sais pas, ça arrive peut-être ici au lycée ou dans la partie collège. Il y a souvent des fois certains types d'élèves, bon pas tous, qui vont par exemple pas intégrer quelqu'un parce qu'il est pas habillé comme eux, parce qu'il rentre pas dans la norme entre guillemets, dans les
et dans les critères de choix.
Oui voilà c'est ça oui et en gros il est un peu entre guillemets un peu dépassé, enfin. Moi, je sais qu'il y a des personnes, pas toutes, mais certaines, qui pensent qu'ont cette vision un peu étroite d'esprit, en fait. Et c'est vrai que l'argument du port de l'uniforme, bah, c'est vrai que ça pourrait régler le problème. Bon, après, c'est vrai que ça pourrait. Des fois, le fait d'être habillé différemment, ça permet aussi de mettre en avant sa personnalité. Alors, c'est vrai que si tout le monde après est en uniforme,
ça pourrait passer peut-être par l'interdiction de port de vêtements de marque.
Oui, voilà. Voilà, ouais. Mais bon, après les chefs d'établissement ou autres, enfin, vont pas contrôler systématiquement quel type de vêtements a tel élève, etc. Parce que ça reste dans la sphère, on va dire, privée, quoi.
Et après, certaines personnes vont pas forcément être à l'aise en portant l'uniforme.
Oui.
Aussi, mais bon,
c'est
après.
Personnalise après derrière aussi.
Après, c'est fait. C'était dans le temps, à l'époque, c'était comme ça en France. Ça l'est toujours en Angleterre. Donc après tout, pourquoi pas.
Parce que imposer le port de l'uniforme, c'est pas personnel aux personnes qui en sont obligées de le porter.
Puis même, on veut montrer notre originalité, ce qu'on est vraiment. Avoir des vêtements différents des autres pour essayer de se démarquer. Alors si on porte tous uniforme, ça nous dépersonnalise, on n'est plus nous-mêmes.
Moi je trouve que c'est bien de se différencier des autres, et même si on ne vit pas pour les autres, donc je pense qu'il faut s'habiller comme on le souhaite, et puis voilà, on s'en fiche des avis des autres.
Donc très vite, pour ou contre ? Un petit tour de table. Valentin ?
Contre.
Complètement contre.
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 Pour. Contre.
Pourquoi pour, Dylan ?
Parce que déjà c'est certain, il n'y aura pas de forme de discrimination et ça apporte une image à l'établissement, donc moi je suis pour.
Qu'est-ce que tu en penses, Valentin ?
Moi personnellement je suis contre.
Moi aussi.
Je suis contre aussi parce que comme Flavie disait, pour moi il faut qu'on soit tous différenciés, on peut pas être tous pareils en fait.
Contre parce que porter des vêtements différents ça reflète notre personnalité, enfin c'est...
Et toi, Romain, tu en penses quoi ?
Moi, par rapport à ça, par rapport à ce thème-là, je suis un peu partagé parce que, comme tu le disais à l'instant, c'est vrai que ça permet à des personnes de s'affirmer en tant qu'individu, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un peu, qui des fois, par peur d'être mal vues des autres, vont vouloir s'habiller avec des vêtements de marque et vont, entre guillemets, insister auprès de leurs parents pour acheter le vêtement qui coûte un certain nombre d'euros, alors que c'est pas pour ça que forcément il va être plus heureux. Ou on en revient un peu aussi au thème un peu de la société de consommation d'aujourd'hui.
Quelque part ça passe par l'égalité de tous.
Oui, voilà, c'est ça, ça passe.
Si je peux rajouter mon petit mot, chaque fois qu'on a des Irlandais ou des Anglais qui viennent ici, je leur pose la question parce qu'eux, ils le portent, l'uniforme. Et en connaissance de cause, pareil en Espagne, il y a beaucoup d'écoles, ils portent tous l'uniforme. Et en fait, tous, ils sont pour. Même s'ils adorent rentrer chez eux, se changer dans leurs vêtements, ils sont pour la porte de l'uniforme. Donc, ce serait intéressant de le...
C'est comme si on avait un bleu.
Quand vous avez l'occasion de leur poser la question, pourquoi ?
Mais je trouve qu'on n'a plus notre propre personnalité si on nous impose le port de l'uniforme.
C'est pas intéressant.
Chacun doit avoir sa propre personnalité et pas nous imposer des choix vestimentaires.
Voilà, c'est bien. Et nous allons terminer sur le dernier sujet, la discrimination dans le sport avec Dylan et Valentin.
Oui, alors dans le football, on parle quand même du football comme étant du beau jeu. Mais les plus belles choses ont quand même leur côté sombre, et le football, c'est le racisme, où la FIFA, où certaines stars du football se sont quand même engagées auprès de la FIFA pour se battre contre le racisme, notamment Thierry Henry, Pelé, Michel Platini ou Lilian Thuram. Et puis en 2002, la FIFA a lancé la journée mondiale contre la discrimination et le racisme. Et puis en 2006, la campagne Say No to Racism, lancée par la FIFA... En avril 2006, quelques mois plus tard, à la Coupe du Monde de la FIFA, les grandes bannières Say No to Racism sont déployées avant le début de chaque rencontre pour se battre contre certains joueurs qui sont quand même victimes de racisme, notamment en Angleterre où on a eu certains cas. En France, un peu moins, mais...
Beaucoup en Italie aussi.
En Italie aussi, les Noirs ne sont pas vraiment acceptés. Puis en 2007, les 90 minutes pour Mandela, comme nous a parlé Étienne tout à l'heure, pour un match disputé entre la sélection africaine et une sélection du reste du monde pour soutenir le combat contre le racisme.
Donc, alors le racisme dans le sport, déjà on va commencer aux États-Unis avec notamment joueurs de basket ou encore de football américain qui ont avoué il y a quelques années leur homosexualité. Cela aurait pu paraître provocateur ou aurait pu surprendre beaucoup de personnes, mais cela a été très très bien accepté et par les clubs et par...
et par les spectateurs. Deuxième point aux États-Unis, c'est le président, enfin maintenant l'ex-président des Los Angeles Clippers, qui a insulté lors d'un enregistrement téléphonique avec sa femme, qui était raciste envers certains joueurs de son effectif. Il a donc été banni et a eu l'obligation de revendre sa franchise, et l'intérim avait été assuré par sa femme. Maintenant, sur le continent européen, on va en semi-européen, en Russie, où notamment là-bas, c'est très raciste, c'est le cas de le dire. Les Noirs ne sont clairement pas acceptés, et les homosexuels encore moins, puisqu'ils mélangent carrément les choses et les considèrent même comme des pédophiles. Ça a été d'ailleurs vu notamment aux Jeux Olympiques, où les personnes homosexuelles n'étaient pas acceptées et ont eu de sacrés problèmes avec les autorités russes, notamment interdiction de rentrer dans les stades, où on était même emmené en prison, enfin voilà, des choses dont on parle peu mais pourtant qui sont bien arrivées. Donc la Russie doit vraiment travailler dessus, puisque les Noirs aussi sont très insultés, notamment dans le football, où les spectateurs chantent des chants racistes envers ces joueurs. Ensuite, on va en Italie. C'est vrai qu'en Italie, les Italiens sont très racistes envers les Noirs, où plusieurs joueurs de peau noire donc se sont fait insulter, notamment Mario Balotelli, ex-joueur de Manchester City et du Milan AC, qui est maintenant à Liverpool, a été plusieurs fois insulté. On a vu aussi plusieurs choses avec des joueurs qui, en se faisant insulter, sont sortis du terrain dans la minute qui a suivi et ont laissé leur équipe du coup à 10 contre 11. Ensuite, on peut aller en Espagne. L'Espagne, où il y a eu un problème l'année dernière, celui de Dani Alves, joueur du FC Barcelone, lors du match entre Villarreal et le FC Barcelone. Une banane lui a été jetée. Alors ça peut faire rigoler, en tout cas ça ne l'a pas fait rigoler, mais ensuite la banane est devenue une mode, notamment pour fêter son but.
Mais on peut le voir, malgré tout ce qui est fait pour le racisme, ça marche encore. Regarde, en France, dans le métro, avec les supporters de Chelsea.
Oui, alors justement en Italie,
on peut accepter qu'une personne noire rentre dans le métro.
En Angleterre, justement, il y a aussi de semblables choses, mais déjà moins fréquentes, mais qui arrivent tout de même, puisqu'il y a quelques jours, donc des supporters de Chelsea qui avaient rempli le métro pour aller au Parc des Princes ont refusé une personne de peau noire, civile comme nous tous, qui rentrait du travail pour aller chez lui, l'interdisant d'entrer dans le métro, et le repoussant, et qui ont chanté un chant raciste qui, soi-disant, était un chant pour leur capitaine John Terry. Alors du coup, en France, c'est déjà arrivé par le passé, mais nous ne sommes pas dans le football ou dans les autres sports un pays où le racisme a été beaucoup utilisé. Donc en France, on est plutôt bon élève à ce niveau-là.
Bon, très bien. Donc voilà. Donc nous étions sur le thème de la discrimination aujourd'hui. Donc nous sommes le 23 février. Vous étiez sur 97.9 FM sur la fréquence. Emmanuel va nous donner les rediffusions de l'émission. Non. Eh bien voilà. Donc non.
Bonne semaine et à la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.